Je suis en compagnie de Louis-Pascal Jacquemont pour l'essai Irène Joliot-Curie qui est paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour Dominique Jeanvray.
Nous allons commencer par la mort, par la fin. Je souhaiterais que nous parlions de la maladie qui a affecté Irène Joliot-Curie, dont elle est morte.
Vous commencez par la mort, pourquoi pas? Elle est morte jeune. Elle n'avait pas atteint 60 ans, donc c'est alors que sa mère a dépassé la soixantaine. Donc c'est une jeune femme qui décède en 1956 et qui décède, d'après les médecins, les gens qui l'ont soignée, qui décède d'une leucémie aiguë, dont les raisons sont probablement à voir dans l'exposition aux rayons X qu'elle a connue entre 17 et 19 ans, et qui ont provoqué, à partir de son 25e anniversaire, une série d'effets de tuberculose qui progressivement a été plus ou moins bien soignée et ont abouti à cela, renforcé par les différents problèmes liés à l'exposition au polonium, plus que le radium, puisque c'est le polonium qu'elle a beaucoup, beaucoup travaillé et surtout qu'elle a travaillé sans grande précaution, alors que, à partir de 1932, elle sait quels sont les risques, elle impose aux autres de se protéger et elle-même se sent suffisamment professionnelle pour ne pas avoir recours à toutes ces protections.
Alors qu'elle avait l'exemple de sa mère, Marie Curie, qui est décédée de des causes de, enfin
Des causes similaires.
des causes similaires, qui est décédée en 1934. Donc elle aurait, mais elle avait déjà été, je vais dire, enfin,
Elle avait
tout
déjà été
touchée, voilà,
contaminée.
contaminée, voilà.
Donc les problèmes de tuberculose se déclarent à la naissance de ses enfants, en particulier, s'accentue à ce moment-là, puisqu'on lui déconseille même d'avoir un deuxième enfant. Et elle passe outre. Je pense qu'il faut voir dans son comportement, non pas de l'imprudence en tant que telle, mais c'est une conception de la vie. Elle, c'est une scientifique, elle sait qu'elle court des risques, mais elle estime, comme sa mère, que cette vie-là vaut d'être vécue, même en courant ces risques. Et que c'est, on doit se donner complètement à la science. Et d'une certaine manière, inconsciemment, c'est ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle attend aussi des autres. C'est assez extraordinaire puisque ce schéma-là, elle a tendance à dire, mais non, il faut faire attention. Mais en même temps, elle est très exigeante sur la façon dont tout le monde va s'investir, notamment quand elle dirigera l'Institut du Radium.
Vous utilisez même le terme de déni. Il y a eu
Voilà, je
un
pense qu'il y a un.
déni, mais pas que de sa part, peut-être de toute la famille. Ça a commencé peut-être ce déni par Marie Curie, puis ça a continué avec Irène et Frédéric Joliot-Curie.
Alors j'apporterai une nuance parce que le déni vient de la période des années 20, c'est-à-dire au moment où tout d'un coup le radium apparaît comme un matériau absolument extraordinaire que l'on va utiliser à tout va dans les cosmétiques, dans la peinture, dans différents appareillages et dont on va commencer à s'apercevoir que ça provoque un certain nombre de dégâts, en particulier de cancers et ça entraîne la mort. Pour l'anecdote, les filles qui, à New York ou dans le Connecticut, utilisent de la peinture à base de radium, voient se développer sur leur langue et sur leurs lèvres toute une série de plaies. Mais en fait, c'est parce qu'elles lèchent le pinceau sur lequel est la peinture que le risque encouru va faire que c'est effectivement cette partie-là de leur physique qui sera touchée en premier. Donc au début, on ne sait pas que le radium est à ce point dangereux, même si on a quelques petites expériences. Et pour l'anecdote, sachez quand même que Marie Curie, qui va à un congrès à Gênes en 1920, 22 exactement, avec la famille Marbeau et Borel, et qui emmène Irène, eh bien, emmène avec elle une petite boîte dans laquelle il y a un morceau de radium, et qu'elle regarde la nuit parce que ça brille. Vous imaginez les effets? Les effets sur son corps, aujourd'hui, on ne le permettrait pas, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, vous voyez, là, il y a une certaine innocence. Et ce qui est particulier, c'est que les premiers ouvriers qui sont malades, les premiers collaborateurs qui ont un certain nombre de problèmes, aussi bien Marie qu'Irène, se rendent compte qu'il y a effectivement des problèmes, mais elles-mêmes ne sont pas touchées. Donc elles vont mettre l'accent en disant, mais c'est peut-être une raison professionnelle, c'est une raison de manquement professionnel. Et surtout, elles disent, mais c'est normal, on est fatigué, donc il faut aller prendre l'air. Et c'est l'aération, si on peut dire, et notamment la montagne ou la mer, qui devient curative. Et je me souviens par exemple d'un rapport qui avait été fait au sujet d'un des collaborateurs des Ministry, où ils disent, mais oui, mais il ne se déplace pas suffisamment à pied, il ne peut pas respirer suffisamment d'air, donc il ne peut pas se régénérer. Et du coup, c'est normal qu'il soit malade, et finalement, c'est ce que j'ai appelé le déni. Donc c'est un déni par ignorance. Ensuite, par contre, à partir du moment aux années 20-25 où l'Académie de médecine interdit l'utilisation du radium, sauf sur certaines règles, et prononce par le biais de la loi où le gouvernement à l'époque va imposer un certain nombre de protections en utilisant le radium et le polonium, eh bien, on voit bien que le laboratoire est équipé, mais que ces deux femmes, qui ont un sacré caractère, eh bien, savent. Se pense un petit peu au-dessus des choses et finalement se croient tout à fait capables d'utiliser leurs instruments en se défiant d'une certaine manière des règles élémentaires de précaution. Vous imaginez quand même que Marie Curie est toujours en train de se racler les doigts parce qu'elle est atteinte d'une nécrose. Et Irène, à l'âge de 54 ans, aura le même problème. Elle a les mains, les doigts qui se nécrosent.
Alors, même que dans leur laboratoire, certains collaborateurs décèdent. Il y a d'ailleurs eu un accident que vous relatez, dramatique. Enfin, une collaboratrice, Sonia Cotel, au cours d'une opération de distillation sur une forte source de polonium, a reçu une quantité très supérieure à la dose létale en plein
Oui, une
visage,
ampoule qui éclate.
et qui est Irène Joliot-Curie était juste derrière
Juste
elle.
derrière.
Enfin, c'est-à-dire que c'est elle qui a reçu en plein visage. Elle en décède assez rapidement.
Non.
Non?
Ah non, pas du tout.
Ah non, j'ai cru alors. J'ai extrapolé. Elle n'en est pas
Alors,
décédée.
c'est très intéressant parce que vous touchez là quelque chose, un événement sur lequel il y a un mystère. Sonia Cotel, l'accident de Sonia Cotel, qui travaillait effectivement à la mesure de la radioactivité dans le laboratoire de chimie et qui était une collaboratrice d'Irène, c'est en 1927. Elle décède en 1945. Or, il se trouve qu'un des collaborateurs du laboratoire le plus tardif, Goldsmith, un des grands hommes de la mise au point de la pile atomique, probablement stipendié par la CIA et les Américains, est au cours de la guerre, à la fin de la guerre, chargé de faire un rapport sur ce qui se passe au laboratoire Curie. Et dans ce qu'il écrit, il fait un rapprochement absolument inattendu entre l'accident en question et la mort de Sonia Cotel, alors qu'en fait, il y a un écart de temps très très important. Et l'analyse que j'en fais, c'est que il y avait une telle tension entre ce chercheur qu'Irène n'avait pas voulu recruter. Marie Curie l'avait rencontré, mais n'avait pas eu le temps de choisir de le recruter. Et c'est le successeur de Marie Curie, André de Bierne, qui a recruté Goldsmith, et qui a Bertrand Goldsmith, et qui a recruté ce chercheur. Et ça a donné lieu à une altercation dont beaucoup de collaborateurs du laboratoire se souvenaient, puisqu'il dit clairement à Irène, celui-ci au moins, il n'a pas connu ta mère, et fous-moi la paix. Donc, on sait qu'il y a une tension très forte, et au moment où ils travaillent au CEA, c'est quand même Goldsmith qui, à plusieurs reprises, avec beaucoup d'humour, dit à Irène, mais Madame Joliot-Curie, sachez quand même qu'on a déjà inventé l'automobile. Ce qui veut dire que, ce qui montre à quel point, derrière cet humour, il y avait une tension très forte entre les deux personnages. Probablement liée, je pense, au fait que Goldsmith est plutôt pro-américain, pro-occidentale dans un temps où, avec la guerre froide, les choix des Joliot-Curie a été de pencher plutôt pour l'URSS.
Alors parlons de ces choix, on est en plein cœur de ces choix, quittons la thématique du déni sur le radium. Allons maintenant dans les considérations politiques. Frédéric Joliot-Curie appartient au Parti communiste, Irène pas, mais néanmoins elle en est très proche. Elle est aussi féministe. Ils vont être très proches des courants pacifistes. Donc effectivement, ils vont refuser aussi de fabriquer l'arme nucléaire. Ils vont vouloir uniquement développer le nucléaire civil pour et la recherche, mais ils vont refuser de fabriquer des armes
La
nucléaires.
bombe atomique, parce qu'elle est considérée comme dangereuse. Alors, par rapport à ces engagements politiques, je serais peut-être plus nuancé que vous ne l'avez fait. Il se trouve que le mentor de Frédéric Joliot, c'est Paul Langevin. Or, Paul Langevin occupe dans l'histoire des intellectuels scientifiques une place tout à fait particulière. Dès les années du début du siècle, il est élève de Pierre Curie et il entre très vite dans la bande des gens qui défendent Dreyfus. Et ensuite, avec la guerre, il entre très vite en connivence, si je puis dire, avec ceux qui rêvent d'un nouveau monde. Et donc les idées bolcheviques le séduisent. Sans adhérer encore au Parti communiste, il va avoir des disciples, si je puis dire, et Frédéric en fait partie. Sauf que Frédéric et Irène ont d'abord adhéré à la SFIO. Et ça n'est que progressivement, visiblement, puisque au moment de la montée de l'antifascisme en 1934, ils optent pour le CVIA, le Comité de vigilance antifasciste. Et qui sont les fondateurs du Comité de vigilance antifasciste? Eh bien, l'homme orchestre, c'est Paul Langevin, plus un radical et un socialiste qui vont constituer cet organisme. Et les premiers qui vont appartenir à ce comité, c'est effectivement Irène et Frédéric. Donc les engagements, on les voit bien, ils sont avec l'idée de réaliser un monde meilleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est que les scientifiques de cette époque sont des intellectuels qui considèrent que leur place dans la société est une place politique. Et donc, qu'ils sont là pour chercher, réaliser, trouver, et en même temps apporter le bienfait à l'humanité, et non pas le méfait. Donc ça explique aussi la deuxième partie, c'est-à-dire la fission nucléaire. Donc ce dégagement d'énergie extraordinaire doit être utilisé, bien entendu, pour le bienfait de l'humanité, et non pas pour les méfaits. Donc l'idée de la bombe atomique, elle ne doit pas être première dans leur principe. Et ils sont tellement persuadés qu'on ne la trouvera pas aussi vite qu'ils ne vont pas hésiter à attendre, et ne pas se rendre compte tout de suite que les Américains, et les laboratoires anglo-saxons en particulier, anglais et américains, et notamment dans le cadre du projet Manhattan, auront déjà mis la main, si je puis dire, sur la connaissance, et surtout auront donné le pouvoir aux politiques et aux militaires, et auront donné finalement le pas à ces politiques et ces militaires, une nationalisation, si je puis dire, de la science, alors qu'eux, ils restent dans une vulgate qui est, d'une certaine manière, l'idée que la recherche est universelle. Or, le discours tenu par l'URSS, le discours tenu par les gens autour du PCF, de Duclos, autour des hommes qui entourent Staline, et même Khrouchtchev après, est bien de dire que la science est universelle. Même si dans la réalité, et en catimini, ils ont fabriqué leurs bombes. Et si ça déçoit beaucoup les Joliot-Curie de l'apprendre comme cela, un peu par hasard, qu'effectivement, ils se sont dotés de la bombe atomique. Ils étaient tellement persuadés que ce pays-là était capable de faire le désarmement, qu'ils en sont déçus. C'est les années 50, et alors on voit bien comment Frédéric Joliot et Irène Curie vont progressivement chercher à développer les organismes internationaux pacifistes, donc se rapprocher de l'appel que mènent à la fois Einstein et
Et
Russell,
Russell.
de façon à effectivement opté pour le désarmement contre les effets thermonucléaires de la bombe H que les Américains viennent de mettre au point et qu'ils ont essayé à Bikini, avec toutes les conséquences dangereuses qu'ils dénoncent. Et dans les négociations, par exemple, en 1945 avec De Gaulle, plus exactement avec Daultry, les Joliot-Curie veulent absolument qu'on développe la recherche scientifique, la radioactivité, la physique nucléaire pour des usages industriels, pour l'énergie, au besoin pour des sous-marins, mais pas du tout pour une bombe atomique. Ils sont véritablement restés sur cet angle de visée qui est encore lié à leur idée que tout scientifique a une responsabilité devant la société.
Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont restés en France en 1940. C'est-à-dire qu'ils ont fait, à un moment donné, vous le relatez dans ce livre-là, leur choix, mais sans doute crucial aussi, parce qu'ils engageaient aussi tout l'avenir pour eux, d'être restés en France, de ne pas avoir fui la France au moment où les Allemands ou la Wehrmacht envahissaient le territoire. Ils ont fait le choix de ne pas fuir aux États-Unis, alors que ça leur était totalement possible.
Totalement possible.
Ils ont fait ce choix-là, ils ont hésité. Alors, ils ont fait ce choix aussi peut-être pour ces significations-là.
Il y a deux ou trois moments qui sont des moments différents, en fait, et où les décisions qu'ils prennent de rester s'appuient sur des motifs de nature différente. Je crois que dans un premier temps, celle, entre guillemets, qui est responsable qu'il soit resté, c'est Irène. Irène, elle est, d'une certaine manière, l'image, ou elle a l'image de Marie Curie, qui est restée sur le sol, qui n'a pas bougé, qui a protégé le radium, etc. Et cette idée qu'on ne quitte pas son sol. Et donc, d'une certaine manière, elle reproduit, en 1939-40, elle reproduit l'image et le fonctionnement de Marie Curie. D'autant plus que, du côté de la famille de Frédéric Joliot, comme du côté des Curie, il y a des ascendances alsaciennes. Et qu'il y a cette espèce de long souvenir de ce qu'était l'importance de l'Alsace-Lorraine. Donc on n'abandonne pas. Le deuxième élément, c'est qu'à partir de 1940 et l'occupation, l'idée des Curie, des Joliot-Curie, c'est clairement de dire « la science est au-dessus du politique ». Ceux qui vont venir occuper, d'accord, mais vous voyez bien, le chef de l'état-major est un physicien.
Qui va les protéger un peu, d'ailleurs.
Pas le chef d'état-major. Son second, qui est chargé de surveiller, ne surveille que le laboratoire du Collège de France, parce qu'il y a un accélérateur de particules qu'a mis en place Frédéric Joliot. Pas trop l'Institut du radium à côté. Donc, d'une certaine manière, cet ancien collaborateur de Marie Curie, cet ancien chercheur qui était au laboratoire, eh bien, il y a une connivence. Et cette connivence, elle va nous permettre de gagner du temps, de protéger les choses, etc. Et c'est ce que fait Frédéric. Avec la complicité de Gantner, c'est un peu l'histoire de Pénélope. Il défait la nuit ce qui a été mis en place le jour, de façon à ce qu'on n'avance pas trop les travaux qui sont surveillés par d'autres scientifiques qui sont dans cet état-major. Et puis la troisième étape, elle est à partir de 1942-43. À ce moment-là, effectivement, aussi bien Irène que Frédéric conçoivent très bien qu'on ne peut plus rester un peu en dehors, il faut vraiment plonger. Et effectivement, Frédéric va plonger en créant un réseau de résistants de l'université, le Front National des Universitaires, de la Liberté, et en passant carrément à la clandestinité. Et Irène, qui, elle, pour des raisons de santé, est obligée de circuler entre la zone nord, la zone sud. D'ailleurs, elle a obtenu des laissez-passer à cause de son état de santé. Eh bien, elle passe à Lyon, où elle retrouve les Perrin avant qu'ils ne partent à New York. Elle retrouve, vous voyez, elle retrouve Langevin en Suisse, etc. Donc finalement, elle fait un certain nombre de liens. On n'a pas la trace précise d'échanges de lettres, etc. Mais il y a des choses qui visiblement circulent. Donc elle est, d'une certaine manière, quoi qu'elle en dise, elle participe au mécanisme de la résistance. Et effectivement, quand quand Frédéric décide véritablement de passer dans la clandestinité en 44, à ce moment-là, il veut la mettre à l'abri, et donc il lui demande de partir en Suisse, de se réfugier en Suisse, et là, il y a un petit retard parce qu'il se trouve qu'Hélène, la fille de Frédéric et Irène, a préparé son baccalauréat au lycée de Sceaux. Elle voudrait bien passer ce bac et on est au mois de juin. Donc, on va se débrouiller pour aller du côté de Montbéliard, du côté de cet endroit où effectivement le nom Joliot existe déjà. Il y a ces noms de famille, ça passera plus inaperçu. Et donc, elle peut passer ses épreuves de baccalauréat. Et dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, on franchit la frontière. On passe en Suisse, 5 au 6 juin 1944, vous savez que c'est la date du débarquement en Normandie, que les Joliot-Curie apprennent quelques jours après, puisqu'ils étaient en pérégrination à ce moment-là.
Si ils avaient fait le choix d'aller aux États-Unis, ils auraient eu un autre choix à faire, construire la bombe ou ne pas la construire. Puisqu'ils étaient aux premières loges, en découvrant la radioactivité artificielle, ils avaient conscience qu'il y avait une potentialité d'en fabriquer quelque chose, en tout cas de l'ordre de l'arme. Finalement, en restant en France, ils n'ont pas eu à faire ce choix-là, qui a pesé après sur nombre de scientifiques, de participer au projet Manhattan.
Oui, mais je pense que les scientifiques qui ont participé au projet Manhattan étaient pour un certain nombre, on peut penser à Oppenheimer, on peut penser même indirectement Einstein, à la différence de Fermi par exemple, étaient dans l'idée que on essayait de trouver quelque chose qui n'aurait pas une. Ils n'imaginaient pas que ça pouvait avoir cette puissance mortelle. Aussi conséquente. D'ailleurs, très très vite, ils vont se retirer du projet parce qu'ils le trouvent disproportionné quant à ses effets. Ils ne s'attendaient pas à cela. Donc, par rapport à Frédéric et Irène, d'une part, je pense que, compte tenu de son état de santé, il y a plus de chances que ce soit Frédéric qui aurait pu y aller qu'Irène, vu les circonstances. Ensuite, si on fait la fiction historique, je pense qu'il aurait pu jouer un rôle non négligeable dans la recherche. On n'a jamais parlé de bombe atomique canadienne. Or, on a créé une pile atomique canadienne. Et ceux qui l'ont créée, c'est des gens comme Bertrand Goldsmith, dont je parlais, comme Kowalski, comme des gens qui, Guéron, qui vont revenir ensuite en France dans des exilés. Ceux-là, ils n'ont pas participé. Ils ont participé indirectement au projet Manhattan. Ils n'ont pas participé à la fabrication de la bombe. Ils ont participé à la création d'une pile atomique qui était de nature, cette fois-ci, industrielle. Donc pas au même, avec les mêmes objectifs. Donc qu'est-ce qui nous dit qu'il n'en aurait pas été de même pour Frédéric si d'aventure il n'avait pas loupé le bateau qui partait avec l'eau lourde de Bordeaux et l'amiral Groves était probablement prêt à le capturer pour pouvoir l'emmener avec lui en Grande-Bretagne. Mais bon, le rendez-vous, il n'a pas compris que le bateau avait changé d'endroit pour des raisons de sécurité, et du coup, il est reparti, il est resté en France.
Puisqu'il y a cette anecdote où il va récupérer l'eau lourde qui était en Norvège.
Ça, c'est un petit peu
Ça,
avant.
c'est un petit peu avant, et qui va faire évacuer
Et
l'eau
oui.
lourde.
Frédéric Joliot
C'est un épisode très connu pour
Ben oui, parce
dans l'affaire.
qu'il y a un film qui s'appelle La bataille de l'eau lourde. Et en plus, dans ce film, Joliot-Curie joue son propre rôle. Donc, c'est assez intéressant d'avoir une sorte de film de docu-fiction, puisque avec un certain nombre de gens qui ont joué ce rôle-là. Alors, la raison pour laquelle l'eau lourde est récupérée, elle tient davantage à Frédéric Joliot-Curie, qui connaît dès 1939 quels sont les principes physiques de la physique nucléaire, et qui pense qu'on peut développer grâce à une pile à l'eau lourde. Donc, il sait que cette eau lourde, elle est développée notamment par une société en Norvège, et que à partir du moment où il apprend que les Allemands sont en train d'avancer du côté, envahissent progressivement les territoires vers le nord-ouest, ça met en péril cela. Alors, Il a des connivences, parce que le patron de cette entreprise est un descendant de Français, parce que le général allié que la Défense... Parce qu'à ce moment-là, Frédéric Joliot est sous la responsabilité du ministère de la Défense. On est au tout début de la guerre, il est mobilisé en tant que tel, si vous voulez. Donc, il va opérer une récupération de cette eau lourde, tout simplement en créant un leurre, c'est-à-dire qu'il y a un avion qui décolle de la Norvège et qui va en Écosse pendant qu'un autre décolle du même endroit, mais clandestinement, et va ramener l'eau lourde en France. Et ensuite, on va emmener cette eau lourde d'abord en Angleterre et puis ensuite au Maroc.
Parce que à travers Irène et Frédéric Joliot-Curie, c'est aussi une possibilité de trajectoire de scientifiques responsables, de scientifiques en prise avec la politique, de scientifiques qui font, enfin qui réfléchissent aux usages de la science. Ce que n'ont pas fait tous les scientifiques de leur époque, c'est aussi une trajectoire singulière dans ce sens-là.
Je ne pense pas, je crois justement, beaucoup d'historiens ont écrit ou ont travaillé sur cet aspect. Je pense que tous les scientifiques ont réfléchi à la portée politique, la portée sociale de ce qu'ils faisaient. Comme aujourd'hui d'ailleurs, des scientifiques, on se souvient de ces professeurs Testard, je crois, qui a souhaité ne pas continuer à travailler en embryologie et à créer des bébés éprouvettes parce qu'il estimait que c'était une manipulation qui pouvait devenir dangereuse. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une réflexion à l'époque, c'est la même chose. Sauf que les degrés peuvent être plus ou moins importants et l'implication plus ou moins forte. Ce qui est manifestement important, c'est qu'à l'époque, dès que quelqu'un trouvait quelque chose, ça faisait l'objet d'une publication, et la publication devenait tout de suite universelle, elle était vers l'ensemble des scientifiques. Alors que ce que nous a appris la Seconde Guerre mondiale, et notamment cet engrenage avec la physique nucléaire, le projet Manhattan et les raisons de la guerre, bien entendu, mais ça a bouleversé complètement la perspective, c'est un... que les scientifiques ne sont plus considérés comme des responsables directement politiques de ce qu'ils font, mais des experts que l'on utilise ou pas. Et le deuxième effet, c'est une nationalisation des recherches scientifiques. Et donc les formes de concurrence, au lieu d'être ouvertes, sont devenues complètement fermées.
Et là, il a bien eu un tournant,
Il y a un
justement.
tournant.
On se souvient des congrès Solvay, donc de l'entre-deux-guerres, puis qu'on commençait, je crois, en 1911,
C'est 1911.
où Marie Curie y participait au premier, où du coup il y avait tous ces scientifiques-là. Et effectivement, ça a échangé, enfin vous l'éclairez bien dans ce livre sur
Oui.
Irène Joliot-Curie, où ça a échangé à tout va. Et Frédéric Joliot-Curie et Irène Joliot-Curie ont essayé de relancer la machine.
Et oui, 1948, par exemple,
Après,
le congrès de Wroclaw,
mais ça n'a pas pu se
se
faire.
veut un congrès rassemblant toute la science de l'Est et de l'Ouest. Mais très vite, la guerre froide reprend le dessus. Et l'année suivante, il y aura un congrès pour les savants occidentaux et un congrès pour les savants
Donc
orientaux.
il y a bien un tournant qui se fait avec
Il
la
y a un
Seconde Guerre
tournant qui
mondiale
se fait à
sur
ce
les
moment-là.
échanges scientifiques, hein.
Irène Joliot-Curie va également relancer un autre colloque. Un des premiers colloques qui soit réalisé et qui rassemble notamment tous les chimistes en faisant venir des Américains et des Soviétiques, mais elle se heurte par exemple au gouvernement français qui en 1950-51 dit: ah ben non, les Soviétiques, on ne veut pas les laisser arriver jusqu'ici. Donc il y en a quelques-uns qui finissent par arriver, mais on voit bien que il y a le contexte politique. Et les gouvernements vont s'immiscer très fortement sur un certain nombre de modalités de fonctionnement de la recherche et des chercheurs, alors que pour les Joliot-Curie, les chercheurs et les scientifiques devraient être une catégorie à part, gérant entre eux, si je puis dire, l'avancée de la science et pouvant en faire profiter l'ensemble de la société.
Donc il y a eu une nationalisation de la...
Il y a une nationalisation, c'est très, 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 très net, très, très clair, et on n'est pas sorti de ce cycle. De la nationalisation, il y a un double effet, la nationalisation de la science, ou en tout cas une marchandisation, si je puis dire, de la science. Et le deuxième élément, c'est que désormais, les scientifiques ne sont plus des intellectuels qui réfléchissent à la fois à l'ensemble des effets et qui assument leurs responsabilités jusqu'au bout, ils deviennent des experts et des spécialistes sur tel ou tel point. Il y a un très beau texte qui a été écrit par Irène et Frédéric en 1956, qui devait être publié, et elle a mis la main à ce texte, justement dans les Alpes, à Courchevel, quelque temps avant de mourir. Ça sera publié après par Frédéric dans la revue La Pensée. Et bien, dans ce texte, elle dit: pour nous, la science est un art, et c'est probablement fini. Nos successeurs, eh bien, il faudra bien qu'ils soient très très habiles, et très attentifs, parce que nous, on a déjà du mal à connaître l'ensemble, à avoir l'ensemble des connaissances. Eux ne le pourront plus. On voit bien qu'ils perçoivent qu'on change de monde.
Et on en vient alors à leur conception du scientifique qui se livre corps et âme à leur pratique et au péril de leur santé.
D'une certaine manière, oui, puisque leur engagement n'est pas qu'un engagement d'intellectuel, c'est un engagement total, puisqu'ils défendent à la fois la place de la science dans la société, et ils défendent aussi leur responsabilité en tant que chercheurs. Donc on a vraiment les deux bouts de la chaîne. Donc ils estiment tout à fait légitime que n'importe quel citoyen, ou en tout cas n'importe quelle entité politique ou institution, leur réclame de leur part l'exercice de leurs responsabilités jusqu'au bout. Et en même temps, ils estiment qu'ils font partie de la place publique. Donc, ils ont leur mot à dire sur ce qui se passe. Donc, d'où leur attention très, 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 très forte. Là aussi, il y a un autre basculement qu'ils opèrent qui est très intéressant. C'est que la recherche scientifique est une recherche privée pendant tout le début du siècle, à coup de fondations, de bourses, etc., de dons et autres.
On se souvient du gramme de radium offert
Voilà,
par
qui
les
est
femmes
offert par les femmes
américaines.
américaines, parce que Marie Curie n'a pas d'argent pour. Et puis surtout, elle n'est pas allée déposer un brevet qui lui aurait permis d'avoir une fortune colossale après, comme on le ferait aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que. On va passer d'une science dont les moyens sont des moyens essentiellement de nature privée, des fondations, des aides, etc. On citait l'exemple de Marie Curie et du gramme de radium. Et la grande demande, va être de créer une recherche, qui soit avec des fonds et un financement public. La première étape, c'est le sou du laboratoire qui est créé par Émile Borel en 1925 avec le cartel des gauches. Et la deuxième étape, c'est sur la réflexion qui est menée notamment par Perrin sur la construction d'un organisme de recherche, l'étatisation de la recherche qui se fait avec le Front populaire. Et d'où on va tirer deux ou trois organismes importants, dont le CNRS qui est. On ne peut pas dire qu'Irène Joliot-Curie a inventé le CNRS. Elle a été une étape, à un moment donné, sur l'organisation de ce système à la fois de mise de moyens et de contrôle de la recherche. Et elle va ensuite, lorsqu'elle est au CEA, commissaire au CEA, en tirer parti par le biais du CEA. Mais on voit bien que le CNRS puis le CEA sont des organismes d'État qui font qu'on soustrait la recherche à des intérêts privés pour pouvoir mieux donner l'ampleur sociale qu'elle mérite. Et on voit bien que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, on fait marche arrière, c'est-à-dire qu'on est en train de privatiser, donc de donner aux intérêts, des intérêts privés, les secteurs ou les segments de la recherche, et au contraire de limiter, alors même si, il y a des formules intermédiaires, puisqu'il y a ce qu'on appelle des organismes mixtes qui permettent de développer un certain nombre de choses. Mais on voit bien que là aussi, on est à l'aube d'une nouvelle mutation.
J'aimerais terminer par cette photo incroyable. Elle est en dessous du chapitre 11, Les risques du métier. C'est une photo d'Irène Joliot-Curie en noir et blanc. Irène Joliot-Curie dans son laboratoire à l'Institut du Radium en 1954. Et entre parenthèses, il y a marqué Aspiration à la pipette au lieu d'une seringue. Et effectivement, on la voit en train de d'aspirer une
C'est du
substance,
polonium.
voilà, du polonium.
Plus
C'est
exactement,
une photo symbole, je
c'est ce qu'on
trouve.
appelle un précipité, c'est-à-dire qu'elle a mis sur du polonium, je pense que c'est un acide, de façon à obtenir un précipité de phosphore. Et donc elle aspire le résultat pour pouvoir le mettre dans une éprouvette au lieu d'utiliser une seringue, parce qu'effectivement il y a des émanations qui sont dangereuses de la part du polonium, puisque le polonium est quand même radioactif. Donc elle prend une bouffée de radioactivité, qu'elle le veuille ou non. Ce qui est fascinant, c'est que c'est en 1954, alors qu'elle sait très bien quelles sont les propriétés du polonium, puisque l'invention de la radioactivité artificielle, c'est grâce au polonium. Et c'est comment le polonium a permis, en y mettant une feuille d'aluminium dessus, de faire que cette feuille d'aluminium, à un moment donné, quand on la sort du champ du polonium, et qu'on la met vers un compteur Geiger, et qu'on a surtout mis un peu d'acide dessus, va donner naissance à un radiophosphore qui, lui, est radioactif, alors que l'aluminium ne l'est pas. Donc on a créé quelque chose de totalement artificiel, d'où le nom radioactivité artificielle. Et c'est très intéressant parce que cette méthode-là va permettre de déboucher sur des tas d'applications et en particulier d'inventer tout ce qu'on appelle les marqueurs et les indicateurs qui permettent, quand on vous fait un traitement médical, de vous faire ingérer tel produit et ensuite de voir au travers de vos organes les différents éléments, différentes réactions. Et comme c'est souvent ce qu'on appelle une demi-vie ou une période très courte de radioactivité, ben ça permet justement de capter les résultats. Ça a ouvert un champ considérable. On peut vraiment dire que là, c'est un tournant là aussi dans l'évolution scientifique. Le prix Nobel est tout à fait mérité.
C'est la dernière scientifique à faire ce type de choses-là, c'est-à-dire
Je n'en suis pas sûr.
d'utiliser son corps à ce
Je n'en
point-là.
suis pas sûr.
En 1954, elle connaît très bien les risques, comme vous l'avez dit.
Oui, mais je pense qu'on est encore avec moi, des étudiants d'Irène Joliot-Curie qui ont fréquenté le laboratoire m'ont raconté que d'autres femmes du laboratoire ou d'autres chercheurs ont continué jusqu'à la fin de leur vie à avoir des méthodes pas toujours très orthodoxes par rapport au système de précaution. C'est notre époque qui, avec la réflexion sur les précautions indispensables, voire même les précautions initiales avant même qu'on ne mette au point, a un petit peu renversé la logique et fait que le tout précaution fait que finalement on freine peut-être un certain nombre de choses, mais là, du coup, l'attitude des scientifiques a probablement changé par rapport à cela. Ils sont plus soucieux de leur être, de leur état. Mais le fait de se donner corps et âme à son métier, ce n'est pas propre qu'aux chercheurs. Je connais plein de gens dans des tas de métiers différents, avec bien entendu des conséquences moins dramatiques pour un certain nombre, qui sont dans le même état d'esprit.
Merci beaucoup. Louis-Pascal Jacquemont. Merci.
Merci Dominique Jeanvray.